commençons une série d'études. Et dans cette série d'études, l'idée c'est, de voir la beauté du message de Dieu de la Genèse à l'Apocalypse en essayant de donner 8 étapes. Et c'est pour ça qu'il y a 8 études bibliques pour une vue d'ensemble de la Bible. Donc on va parler de choses que l'on connaît, mais souvent des fois c'est un peu mélangé dans nos têtes. Et on va essayer de mettre de l'ordre. Alors, on aurait pu raccourcir en très peu d'études et tout, mais bon, je me suis dit, voilà, vous êtes des connaisseurs de la parole de Dieu, donc on va prendre le temps de développer cela ensemble. Et pour ceux qui la connaissent moins, ça va être aussi tout aussi pertinent et tout aussi intéressant. Parce que parfois, beaucoup d'entre nous ont du mal à voir la beauté de ce message. Parfois, on voit dans la Bible plusieurs histoires intéressantes et fortifiantes, voire peut-être parfois un petit peu bizarres, horribles, hein, quand on parle de guerre, quand on parle des meurtres. Mais on a du mal à voir le message de la parole de Dieu. On se concentre souvent sur le Nouveau Testament et on a du mal avec l'Ancien Testament parce que pourquoi on parle de loi sur la nourriture? Pourquoi on parle de sacrifice d'animaux? Et puis il y a un temple. Pourquoi? Puisque dans le Nouveau Testament, on voit bien que Jésus ne met pas l'accent sur tout cela. Et on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que les lois sur la nourriture et puis les lois sur les sacrifices d'animaux, qu'est-ce que tout cela a à voir sur Jésus? Et puis on peut penser aussi au récit de l'Exode, au récit de David et Goliath, au récit de Daniel dans la fosse aux lions. Enfin tout ça, toutes sortes de belles histoires que l'on connaît, que l'on parle, dont on parle aussi hein, avec beaucoup de joie et d'engouement avec nos enfants et puis aussi en prédication. Et toutes ces histoires sont encourageantes, mais finalement, dans la révélation totale de la parole de Dieu, quel sens ont ces histoires-là? Elles sont encourageantes, mais est-ce qu'elles ne s'abritent pas dans quelque chose de beaucoup plus grand? Alors, mon but à travers ces études, c'est de donner un cadre pour nous permettre de trouver nous-mêmes des réponses à ces questions. Je ne vais pas répondre à toutes les questions en 8 études. Hein. En 8 études, je ne vais pas parler de toute la Bible en détail. Je vais vous donner les 8 grandes étapes. Et dans ces 8 grandes étapes, vous allez pouvoir vous retrouver, surtout quand on médite la parole de Dieu, quand on lit soi-même la parole de Dieu, ou quand on entend une prédication sur un texte, pouvoir comprendre à quelle étape c'est et comment cette révélation est en train de se mettre en place. Ça a été très pertinent pour moi et c'est pour ça que je le partage. Ça fait longtemps que je voulais le faire et puis le Seigneur permet que les choses soient ainsi. Donc, vous le savez, la parole de Dieu est un livre dans lequel il y a plusieurs livres et plusieurs recueils de divers horizons, de divers styles littéraires aussi. On en a déjà parlé ici, vous savez, 66 livres ici dans toute la Bible, 40 auteurs et qui a été écrit plus ou moins pendant 2000 ans. Et ce qui est merveilleux, on sait que ça se divise entre Ancien et Nouveau Testament. Donc je répète, 66 livres, une quarantaine d'auteurs et pendant à peu près plus ou moins 2000 ans. Et elle se divise donc en Ancien et Nouveau Testament ici. Donc, une grande variété dans la parole de Dieu, écrit par des auteurs humains et sur une longue période, mais malgré tout, alors que c'est écrit sur une longue période, il y a un message, il y a une cohérence, il y a une unité, ou en tout cas, si vous ne percevez pas quelle est cette unité, quelle est cette cohérence, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de contradiction, alors que précisément, il y a énormément d'auteurs, et c'est là où on voit l'inspiration divine derrière, où finalement, le véritable auteur de la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même à travers des auteurs humains. Et il y a un sujet qui prime de l'Ancien au Nouveau Testament, même si on ne le voit pas toujours, c'est la question de Jésus-Christ et du salut que Dieu offre à travers lui. Alors, vous allez me dire, oui, mais on le voit davantage dans les évangiles, et puis, bien sûr, dans tout le reste de la Bible. Et puis, vous connaissez certains textes des prophètes qui en parlent, mais Est-ce que vraiment toute la Bible parle de Jésus? Et c'est ce qu'on va voir ensemble pendant ces huit études bibliques. Alors, généralement, comment on voit les choses, c'est qu'on se dit, et c'est parfois, et parfois moi-même j'ai pu l'expliquer de cette façon-là, alors c'est pas faux de le dire ainsi, mais c'est pas totalement vrai non plus. Alors, la façon dont on voit les choses parfois, par rapport au plan de Dieu, à travers la parole de Dieu, c'est de dire qu'en fait, il y a un premier plan, et c'est le plan A du Seigneur, qui était que les hommes puissent être obéissants à sa loi, tel qu'on le voit ici. Et ce premier plan-là, aurait échoué. Et donc, Dieu, il s'est posé, il aurait réfléchi, et il a conçu, comme qu'il dirait, un plan de secours. Et c'est le plan B, c'est le plan de la grâce à travers la mort de Christ. Alors, parfois, on explique les choses un petit peu de cette façon-là. Mais ce n'est pas vraiment juste de dire les choses ainsi, parce qu'en réalité, Dieu a de toute éternité prévu d'envoyer Jésus. Est-ce que vous en êtes convaincus? Parce que finalement, toute la Bible se réfère à lui. De l'Ancien Testament, donc on a ici, voilà, de l'Ancien Testament, il y a la promesse dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, donc la promesse de la venue de Jésus, et c'est le cas depuis le début de la Bible. Et dans le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement, tout simplement, parce que dans le Nouveau Testament, Dieu proclame Jésus comme étant celui qui accomplit les promesses qui étaient données dans l'Ancien Testament. Et c'est là où il y a une thématique qui émerge. Alors, avant de parler de cette thématique, une autre façon de l'expliquer, c'est ici que l'Ancien Testament est le fondement et la base et nous apprend ce que nous devons savoir concernant Dieu et concernant les hommes, mais il ne nous dit pas tout. Mais il nous conduit à Jésus et à la croix. Et le Nouveau Testament se place au-dessus de l'Ancien Testament. Et cette image illustre le fait que le Nouveau Testament complète et achève de l'Ancien Testament. Donc, c'est une autre manière de dire les choses ainsi. Un autre schéma, mais qui dit la même chose à travers Jésus. Alors, et c'est ce qu'on va faire dans cette étude, pour pouvoir expliquer les choses le mieux que possible, on va trouver une thématique qui arrive à rassembler ça, et on va essayer de suivre cette thématique de la Genèse à l'Apocalypse, à travers ces huit étapes dont je vous ai parlé. Et la thématique, c'est une thématique dont nous avons déjà parlé ici, à savoir la thématique du royaume. Est-ce que vous vous rappelez comment on a défini le royaume ces dernières semaines, avant le mois de décembre, hein, on essaie de continuer sur cette thématique. Vous vous rappelez comment on avait défini, un petit peu ou pas? Pas trop, mais on va y revenir dans quelques instants, ne vous inquiétez pas. Cette thématique du royaume, on sait que Jésus va en parler très très rapidement dans son ministère, n'est-ce pas? Par exemple, dans Marc chapitre 1, le verset 15, il est dit « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. » Donc, Jésus nous enseigne clairement que sa mission, c'est d'établir le royaume. Et dans l'accomplissement, n'est-ce pas, des prophéties ici, de ses promesses, l'accomplissement de ses prophéties, des promesses, on peut le dire comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais l'expression « royaume de Dieu », où est-ce qu'elle se retrouve, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament? Parce que le concept n'y serait pas très présent. On va voir ça ensemble, de quelle manière il se retrouve, dans la façon dont nous avons déjà défini ce qu'est le royaume. Et là, j'essaie de vous piquer un petit peu pour voir qu'est-ce que vous avez retenu de ces mois sur le serment sur la montagne qui nous montrait ce qu'était le royaume et qu'est-ce qu'était être dans le royaume, mais on va y revenir dans quelques instants. Donc, le fil rouge qui va nous tenir, c'est la question du royaume. Et on va le définir dans quelques instants. Ça aurait pu être un autre fil rouge. Ça aurait pu être la thématique de l'alliance, c'est-à-dire de cette alliance entre Dieu et les hommes. Parce qu'on pourrait retrouver la question de l'alliance aussi de la Genèse à l'Apocalypse. Le choix qu'on fait à travers cette étude, c'est le royaume de Dieu. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur le royaume de Dieu? Sachant que le royaume de Dieu, je ne sais pas si je l'ai mis, voilà, il est ici. Le royaume de Dieu, c'est le peuple de Dieu, dans le pays de Dieu, et sous le règne et la bénédiction de Dieu. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On en avait parlé. Je répète, le royaume de Dieu, c'est le peuple de Dieu, dans le pays de Dieu, sous le règne et la domination de Dieu. Et c'est cette thématique qu'on va retrouver, et moi je trouve ça particulièrement stimulant et surtout pour voir la cohérence de la parole de Dieu, et en même temps de voir que le projet de Dieu existait depuis la Genèse, et combien il nous aime, et combien cette thématique-là, avec ces trois items-là, se retrouve. On va voir ça. L'idée ici, c'est que Dieu désire vraiment ardemment vivre une relation intime avec l'homme. Dieu, c'est un être parfait, il est saint, il est sans péché, et donc pour être en contact, en relation avec lui, il faut qu'on se soumette tout simplement à son règne, dans son règne, il y a sa bénédiction. Et pour que l'on puisse être sous son règne, il faut aussi que nous ne péchions pas, que nous nous éloignions du péché, n'est-ce pas? Parce que dans le pays de Dieu, c'est la vie dans sa perfection. La vie telle qu'il l'a conçue dès l'origine. C'est ce qu'on va voir particulièrement ce soir. Vivre sous le règne de Dieu, donc, signifie être sous sa bénédiction. Et on l'observe dès la Genèse. Alors, voici les 8 étapes. Ces 8 étapes, certains peuvent le découper différemment, mais je le trouve assez pertinent, ce découpage des 8 étapes. Alors, je vais juste changer un petit quelque chose, mais je vais vous montrer ça dans un instant. La première étape, c'est la création. C'est ce qu'on va voir ce soir particulièrement. Et cette création, c'est le jardin d'Éden, tout simplement. Le pays de Dieu ici, c'est le jardin d'Éden. Où nous voyons le monde tel que Dieu l'a voulu dès l'origine. C'est comme ça que Dieu a voulu les choses. Et Adam et Ève, c'est le peuple de Dieu, ok, hein, vous vous rappelez les trois éléments, qui vivent tout simplement dans le pays de Dieu et ils sont soumis au règne de Dieu parce que tout simplement, ils obéissent à la parole de Dieu. Et être sous le règne de Dieu, clairement, c'est la bénédiction parce que là, dans le jardin d'Éden, tout va bien, tout est ok. Il n'y a aucune difficulté, c'est la meilleure vie possible. C'est la création originelle de Dieu telle qu'il a prévu. Donc voilà, ici on va y revenir de toute façon à la fin de l'étude. Le peuple de Dieu, donc c'est Adam et Ève. Le pays de Dieu, c'est le jardin de Dieu. Et le règne et la bénédiction de Dieu, ici, c'est le principe tout simplement de ce que Dieu a donné comme vie dans le jardin d'Éden. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est... Voilà, le royaume perdu, c'est la chute. Parce que malheureusement, Adam et Ève pensent que la vie serait meilleure en étant indépendants vis-à-vis de Dieu. Et c'est exactement le sens du péché, c'est-à-dire choisir d'être indépendant, choisir de faire les choses sans Dieu en quelque part. Et le résultat, vous le savez, est catastrophique et le schéma nous montre bien que ça tombe, tout simplement. Ils cessent d'être le peuple de Dieu ici, ils se détournent de lui. Et Dieu répond aussi en se détournant d'eux. Donc ils ne peuvent plus vivre dans le pays de Dieu. Donc ils sont bannis tout simplement du jardin d'Éden. Et voilà, n'étant plus soumis au règne de Dieu, ils ne sont plus non plus sous ses bénédictions. Et au lieu de ça, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vont subir la malédiction et ils doivent aussi subir le jugement. Donc, leur condition devient totalement dégradée. Bon, mais ce qui est merveilleux, c'est que voilà, Dieu ne s'arrête pas là. Il aurait pu dire, bon, ben, voilà, c'est tombé, c'est fini, voilà, on passe à autre chose. Non. Dieu, néanmoins, il passe à une troisième étape, et cette troisième étape, c'est le royaume promis. Alors, je ne sais pas si vous voyez, j'aimerais vous poser la question, puisque j'en ai déjà parlé, où vous voyez, après la chute, le royaume promis. Je vous donne un indice dans la Genèse. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment Dieu recommence à faire des promesses? Après la chute, qu'on va voir, non? Exactement, Abraham. Noé encore, on va le voir la semaine prochaine, cette question de la chute, des conséquences de la chute. Mais il y a une véritable promesse à travers l'histoire d'Abraham. Et il va faire à Abraham des promesses inconditionnelles. Donc c'est Genèse chapitre 12, en fait ça commence à Genèse chapitre 12. Et c'est au travers de ses descendants qu'il va tout simplement rétablir le royaume. Donc, il va se faire un peuple qui va habiter son pays, parce que clairement, il promet ça c'est la promesse d'Israël, n'est-ce pas? Il promet à Abraham et aux descendants d'Abraham d'avoir un pays et de bénéficier de bénédictions. Et d'ailleurs même, ce pays, ce peuple sera une bénédiction pour d'autres peuples, pour d'autres nations. Donc, à travers eux, très clairement, la terre sera bénie. Donc la promesse n'est pas valable que pour Israël. Israël est un canal, on va dire, un peuple témoin que Dieu utilise. Un canal, c'est mieux de le dire ainsi. Et cette promesse en réalité, cette promesse, on va voir toutes les étapes, mais cette promesse, c'est l'évangile que Jésus va donner. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Elle est accomplie de façon totalement partielle ici, mais elle va être accomplie pleinement à travers Jésus. Et vous pouvez lire le début de Genèse chapitre 12, mais aussi dans Genèse chapitre 17, mais on verra ça. Dans 2 semaines concernant la promesse. Ensuite, après cela, il y a ce qu'on va appeler le royaume partiel, on peut le dire comme ça, mais en tout cas, c'est l'Exode. Ici, Dieu va délivrer le peuple d'Égypte, et à nouveau, les trois éléments que je vous ai donnés vont aussi se retrouver. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, ici, c'est la descendance d'Abraham, ok? C'est le peuple choisi par Dieu, donc le peuple de Dieu est toujours là, même s'ils ont été longuement en esclavage, ok? Et donc, c'est vrai, ils deviennent donc esclaves en Égypte, mais Dieu va délivrer son peuple de la main des Égyptiens, et le pays de Dieu, ça reste la terre promise, qui était déjà là, ok? Donc, il y a toujours cette focale de cette terre promise, malgré tous ces temps d'esclavage, la promesse de Dieu reste toujours réelle. Et puis, le règne et la bénédiction, où est-ce que vous voyez le règne de Dieu à partir de, comment dire, de cette histoire de l'Exode? Où est-ce que vous voyez le règne de Dieu où il y a, comme qui dirait, Dieu assure son règne? Où est-ce que vous le voyez à part dans l'Exode? Ça vous dit quelque chose ou pas? Oui, exact, le Sinaï. Donc, c'est les 10 commandements, tout simplement. Et d'ailleurs, dans les 10 commandements, s'ils appliquent les 10 commandements, il y a la bénédiction. D'accord? Ok? Donc, on retrouve ces 3 éléments ici, dans ce royaume partiel. Et puis, dans la notion de bénédiction, il y a quand même la notion, bon, il y a la colonne de nuée, il y a la colonne de feu, mais il y a aussi le tabernacle, n'est-ce pas? C'est-à-dire la présence de Dieu parmi son peuple. C'est ce qu'on est en train d'étudier actuellement. Dans le groupe Instay, enfin, on fait tout un panorama de l'Ancien Testament. Donc, le tabernacle, c'est la présence de Dieu, c'est Dieu parmi son peuple. Et là, on est dans cette partie du royaume partiel. Donc, on verra ça dans 4 semaines. Donc, Israël, je vous l'ai dit, reste ici le peuple de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Après l'Exode, donc c'est le royaume partiel, on a cette période précisément de Josué, où il faudra rentrer dans cette terre promise, n'est-ce pas? Et puis, on a, après Josué, donc le peuple s'installe, c'est vrai qu'il y a la période des juges et tout, mais il y a, cette période où la royauté va s'installer, à travers Salomon, à travers David, n'est-ce pas? Et puis, toute l'infidélité peuple d'Israël, où le peuple va être démembré, va être désintégré. Et on est précisément, alors ici je vais changer un petit peu ici, donc ici c'est royaume partiel et ici royaume prophétisé. Donc le royaume prophétisé, c'est tous ces prophètes que parfois nous avons du mal à comprendre, n'est-ce pas? Parfois, je dis bien, il y en a qui aiment les prophètes. Et ici, ou parfois des fois on utilise des prophètes, mais on prend des petits morceaux dedans, des petites paroles qui nous intéressent bien, mais on a du mal à avoir une vision globale, n'est-ce pas, des prophètes. Mais tout simplement parce que ici, bon, vous êtes en parallèle avec l'histoire historique, hein, vous savez, d'un roi, de chronique, n'est-ce pas? Mais l'image qu'il faut avoir ici, c'est que après Salomon, le peuple va être, va se diviser. Il y a le royaume d'Israël, le royaume du Nord, j'en ai parlé un petit peu dimanche. Donc le royaume d'Israël au Nord, le royaume du Sud, Juda. Et ce royaume du Nord, Israël, à cause des péchés et tout ça, mais on y reviendra, a été, détruit par les Assyriens. Et le royaume du Sud va être envahi par Babylone. Ok? On y reviendra. Et tout ça pour vous dire que dans toute cette période-là, c'est un royaume prophétisé, parce que dans tout ce que Israël est en train de vivre et de subir à travers les peuples étrangers, tout ce qui est anormal, mais Seigneur, nous sommes ton peuple, mais comment on peut subir tout ça? Mais c'est la conséquence de leur péché qui est là précisément. Et dans tout cela, les prophètes vont dire revenez à l'Éternel. Et dans tout ça, les prophètes vont dire mais ce qui vous arrive là, c'est de votre faute, déjà pour rien. Et ensuite, les prophètes sont en train de leur dire eh bien, il y a une espérance, il y a un espoir. Et le pays de Dieu, le règne de Dieu, la bénédiction de Dieu, le peuple de Dieu, tout ça, ce sont des promesses qui restent totalement d'actualité. Et tous les prophètes, c'est ça. Même si on est avant l'exil, après l'exil, parmi les prophètes, je vous donne en gros, mais on y reviendra dans les semaines qui viennent. Mais c'est ça en gros, c'est ne perdez pas espoir. Vous avez péché, la conséquence de vos péchés, vous subissez. Les Assyriens vous ont détruit pour les royaumes du Nord, les Babyloniens vous envahissent, vous êtes déportés, tout ça, c'était prévu. Et si vous ne croyez pas, ça va vous arriver. D'accord? Mais moi, ma promesse, je la tiens, je la maintiens et elle va se réaliser. Et je trouve ça assez extraordinaire. Amen. voilà, donc ça c'est le royaume prophétisé. Et le royaume prophétisé, à un moment donné, il devient le royaume présent à travers Jésus. Et ici, après ces 400 ans qui se sont écoulés après, puisqu'on a une période intertestamentaire entre les deux testaments, il y a 400 ans, et après ces 400 ans-là, voilà, Jésus annonce son ministère en ces mots, le moment est arrivé, le royaume de Dieu est proche. Voilà. Donc, la temps est terminée, Jésus est là, le roi de Dieu est venu pour établir son royaume. Donc, il va l'exprimer à travers sa vie, à travers ses enseignements, à travers les miracles, et tout ça va prouver qu'il est véritablement le Messie, le Dieu lui-même, Dieu fait homme, et Dieu donc envoie tout simplement Jésus pour sauver les hommes de ce monde. Et le royaume est exprimé ici. Et puis ensuite, en attente de son retour, il y a ce royaume qui est proclamé, puisque par sa mort et sa résurrection, tout simplement, on est dans ce temps-là, tout simplement, le temps où le royaume est proclamé. Et chaque église est là pour proclamer le royaume. Donc le pays de Dieu est à venir, n'est-ce pas? Le peuple de Dieu est en train de se constituer et le règne et la bénédiction est quelque chose qui est réel dès maintenant à travers le salut et la vie éternelle. Ok? Et puis, bien sûr, la dernière étape, mais je pourrais vous laisser la faire, n'est-ce pas? C'est le royaume parachevé, c'est la nouvelle création. Et ça, on en reviendra notre dernière étude. Mais je voudrais que vous ayez une image générale. Et ici, c'est Christ qui revient, tout simplement. Et le pays de Dieu, ce sera le paradis, la vie avec le Seigneur. Alors après, on peut voir où se situe ce paradis, de quelle manière et tout. Mais en tout cas, l'Apocalypse parle de nouvelle terre, de nouveaux cieux, n'est-ce pas? Mais avant cela, il y aura une séparation entre ceux qui sont du peuple de Dieu et ceux qui ne le sont pas, n'est-ce pas? Et les promesses de Dieu vont se réaliser. On y reviendra la prochaine. Alors, ce que je veux voir avec vous aujourd'hui, c'est le royaume prévu. C'est revenir sur quelques éléments de la création. Jusqu'ici, est-ce que tout va bien? Ça va? Je voulais vous donner un petit panorama, une vision globale pour vous dire ce qu'on va faire, pour que, alors que nous allons faire ces 8 étapes, vous ne puissiez pas vous dire, mais c'est quoi la prochaine, mais avoir une vision globale. D'accord? Donc, Genèse 1 et 2 nous montrent la création originelle et parfaite de Dieu. Et on l'a dit tout à l'heure que c'est le monde tel qu'il devrait être, parce que c'est le monde créé par Dieu. Et il y a 4 fondements qui tiennent ce monde parfait. Donc, à cette période, dans cette étape-là. La première, c'est que Dieu est le créateur. J'ai mis Dieu est le création, vous avez compris que c'est pas ça. Dieu est le créateur. Et la Bible le dit au commencement, il est dit que Dieu créa le ciel et la terre. Donc Genèse chapitre 1, verset 1. Dieu seul est éternel. Et comment dire? Jamais de tous les temps, Dieu est à la fois trinitaire et unique. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le Nouveau Testament, Jésus va s'incarner dans son corps, dans un corps d'homme du moins. Voilà. Il n'est qu'au début de sa vie terrestre, mais en réalité, il a toujours existé parce que Dieu a toujours été Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu a toujours été Père, Fils et Saint-Esprit. Et Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit sont avec et avant toute chose. Alors, Ici, on parle de Dieu comme étant le créateur et on nous dit que, comment dire, Dieu a créé la terre en 6 jours. Et certains disent, voilà, c'est 6 jours, mais... alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails dans le créationniste, évolutionniste, mais je vais juste vous donner quelques éléments, parfois par rapport à ces 6 jours de création. Comment dire, parce que on peut les voir soit de façon purement littérale, c'est exactement pendant 6 jours que Dieu a créé la création, et d'autres disent, oui, mais ce sont forcément des périodes plus longues, et voilà, beaucoup de chrétiens évangéliques, notamment américains, mais pas que, qui se disent donc créationnistes, donc vont dire, voilà, par rapport à ce que la Bible dit, qu'un jour c'est 1000 ans, donc ça voudrait dire que voilà, la terre elle est jeune, elle a 6000 ans et tout. Moi, je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations-là, mais juste réfléchir par rapport à cette question de ces jours, est-ce qu'on peut les voir comme étant des jours ordinaires de 24 heures? Et ça posera la question de comment on interprète la parole de Dieu en fonction du texte qu'on a devant nous. Donc, certains veulent faire correspondre et dire, voilà, par rapport à la science moderne, donc oui, bon, ça serait 1000 ans et tout. La petite difficulté avec ça, c'est que quand on lit la parole de Dieu, le début, on observe qu'il y a eu un matin, il y a eu un soir, il y a eu un matin, il y a eu un soir, et que le 7e jour, pas de matin, pas de soir. Et là, on se dit, pourquoi? Comment? Pourquoi les règles sont respectées? Et quand il s'agit du repos de Dieu, on ne parle plus de matin et de soir. Alors, maintenant, je dis ça comme ça, mais en même temps, le fait qu'il y ait un matin et qu'il y ait un soir montre bien que l'auteur du livre donc, de la Genèse a voulu montrer vraiment qu'il y ait des journées délimitées, matin et soir. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que je trouve qu'il est assez difficile de pouvoir essayer de lier des éléments de la science moderne avec la parole de Dieu, parce que je m'interroge si le texte est prévu pour ça. Est-ce que c'est un texte qui est là pour pouvoir démontrer de façon scientifique comment la terre a été créée? Me semble-t-il, c'est pas ça, parce que je vous donne juste un élément. Il dit que le soleil et la lune ont été créés le 4e jour, et ça a été créé après la création de la végétation. Je trouve pas ça très logique. Le 3e jour. Est-ce que vous me suivez un petit peu? Je vais voir si vous êtes un peu perdu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que prendre la parole de Dieu pour, faire un détail scientifique des choses. Ou, finalement, la végétation a été créée avant soleil et lune. Alors, vous me direz, oui, mais la lumière était déjà là. Et là, je vous dirais, mais oui, mais alors de quelle lumière il s'agit? Est-ce que vous me suivez toujours? Et puis, on pourrait se poser la question, c'est que les animaux de la mer sont censés avoir été formés après la végétation. Et les insectes aussi, après les oiseaux. Alors, je vous donne juste un schéma que j'ai dû mettre là, voilà, ici. Je me demande si c'est là que je voulais en parler, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vous donne quelques éléments qui me semblent, au regard de la science, pas très cohérents pour certains chrétiens évangéliques qui veulent vraiment trouver toutes les corrélations et, à partir de la Bible, tirer des aspects scientifiques. Il me semble que ce n'est pas juste. Je vous donne un exemple. Dans les psaumes, par exemple, il est dit que la fumée... Alors là, je prends un autre exemple, pour parler un peu pour s'interroger de quel type de texte on a devant nous dans la création de ces 6 jours. Quand il est écrit que la fumée sort des narines de Dieu, ou encore qu'il se promène en chevauchant des chérubins, est-ce qu'on va comprendre ça de façon purement littérale? Qu'en pensez-vous? C'est des images, hein? Voilà, exactement. Donc, la fumée qui sort des reins, ça ne montre que l'autorité, que le règne de Dieu, n'est-ce pas? Et le fait qu'il soit sur des chérubins, et puis on voit toutes les images extraordinaires qu'il y a dans Ézéchiel aussi, ne montre que le règne et l'autorité de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ok? Et c'est dans ce sens qu'il me semble qu'il serait intéressant de voir ces jours de la création pour montrer que le véritable créateur, c'est Dieu. Pas pour faire des détails scientifiques, mais pour montrer le véritable créateur, et c'est Dieu. Et puis on va détailler un petit peu tout à l'heure encore. Mais regardez ici, par exemple, la façon dont les choses sont faites, c'est purement, me semble-t-il, enfin en tout cas, beaucoup de spécialistes disent que c'est semi-poétique. Et le texte est arrangé de telle façon pour montrer que c'est Dieu le créateur. Pas tant pour montrer une sorte de chronologie scientifique, de préciser tout ça. Mais ici, il y a la séparation jour et nuit, le premier jour. Mais pourtant, le soleil n'est créé que le quatrième jour. Ok ? Ici, il y a la séparation des eaux d'en haut et d'en bas. La mer et le ciel. Et les animaux dans la mer et même les oiseaux sont créés le cinquième jour, qui correspondent exactement à la mer et au ciel. D'accord ? Et ici, la terre qui est créée, donc quand on dit la terre, c'est la végétation, tout ça, et les animaux et les humains ont été créés le sixième jour. Je trouve que c'est très cohérent, n'est-ce pas ? De l'organisation du texte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Parce que ça correspond à chaque fois. Mais c'est un jeu. D'accord ? Vous voyez ? Alors, ce que je veux dire ici, ça peut être un peu choquant pour certains chrétiens, de dire oui, mais à ce moment-là, est-ce que la Bible a été arrangée et tout ça. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quel est l'objectif du texte, comme la fumée qui sort des narines, comme le fait de chevaucher des chérubins. L'objectif du texte, c'est de dire que Dieu est le créateur et qu'il le crée dans parfaite harmonie. Donc ici, il ne s'agit pas d'une chronologie scientifique, mais il s'agit d'une affirmation de l'autorité de Dieu et de sa capacité créatrice, et même de son, du fait qu'il a été simplement, pas simplement, mais assurément, un artisan qui a créé les choses, puisque plusieurs fois il est dit que Dieu a créé, il vit que cela était bon, et à la fin, c'était très, voilà. Et ici, quand on parle de Dieu, on a vraiment l'impression d'une forme d'anthropomorphisme. Qu'est-ce qu'on appelle l'anthropomorphisme ? C'est-à-dire que c'est une manière humaine d'expliquer l'œuvre de Dieu à travers des actes humains. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a travaillé et il s'est même reposé, n'est-ce pas ? Donc, tout ça, c'est, des expressions d'ordre littéraire pour nous faire comprendre une vérité fondamentale. Mais en tout cas, ce qui est sûr, ce qui importe, c'est que Dieu est bien le créateur de toutes choses. C'est lui qui a pris l'initiative de ce monde. De toute façon, la parole de Dieu nous rappelle, puisque dès le chapitre 2, il dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cela. Et puis, on pourrait en parler aussi par rapport à la Trinité, puisque, dans Jean, chapitre 1, verset 3, on voit aussi que Jésus était déjà là aussi, puisqu'il est dit, quand on parle de Jésus qui est appelé la parole, il est dit que tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et puis même dans Colossiens 1, verset 16, il est dit que tout a été créé par lui. Donc Dieu est le créateur. Alors, ce que j'aimerais dire par rapport au fait que Dieu est le créateur, alors, je regarde un petit peu mes notes par rapport au fait que Dieu soit le créateur, une des choses que j'aimerais dire, c'est que dans certaines spiritualités et dans certaines religions, on ne se préoccupe que de l'âme et de l'esprit. On va dire ça comme ça. Notamment certaines philosophies d'ordre plutôt oriental où tout est la matière est mal vue en quelque part. La matière, c'est pas quelque chose qui est reconnu en quelque part, mais ce qui va être important, c'est l'esprit et c'est l'âme. Enfin, en tout cas, tout dépend des définitions que l'on donne. Mais clairement, quand on voit le début de la Genèse, ça remet totalement en cause cela. C'est-à-dire que ce qui est important ici, c'est que le corps a tout, enfin ce qui est physique a tout autant d'importance que ce qui est spirituel. Est-ce que vous me suivez un petit peu? Clairement, dans les philosophies un petit peu gnostiques, on va mettre en avant, comme qui dirait, le monde spirituel, comme qui dirait, le monde spirituel serait supérieur au monde physique. Et ici, dès la Genèse, Dieu nous montre que la logique de du christianisme, la logique biblique, n'est pas du tout dans ses approches philosophiques et dans ses approches, comment dire, orientales ou autres, de toutes les approches. Mais réellement, le corps a tout autant d'importance que le physique. Et d'ailleurs, la Bible nous dit que nos corps seront ressuscités, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit aussi que, alors c'est plutôt l'apôtre Paul qui le dit, vous savez, quand ils ont à traiter la question des... la question où certains disent qu'il ne faut pas se marier, et même quand on est marié et tout, alors là, on peut retrouver ça dans 1 Timothée 4, versets 3 à 4, qui dit, ces gens-là interdiront le mariage et exigeront que l'on s'abstienne de certains aliments, alors que Dieu a créé toutes choses pour les croyants. Ceux qui connaissent la vérité en jouissent avec reconnaissance. En effet, tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter, pourvu que l'on remercie Dieu en le prenant. Donc, l'apôtre Paul me rappelle, attention à cette distinction entre la matière et le spirituel. Et on a cet aspect-là dès le début de la Genèse. On va continuer avec le fait que Dieu règne sur sa création. Alors, Dieu règne sur sa création en tant que créateur de tout ce qui existe. Dieu est souverain sur tout. Et c'est lui qui règne de façon légitime et qui a autorité sur tout ce qui a été créé. Dans le psaume 95, versets 3 à 7, il est dit « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui les a faites, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Donc, le psaume 95, versets 3 à 7. Dans certaines religions orientales, on croit que le monde naturel serait comme une émanation du divin. Une émanation, comme qui dirait, une odeur, un parfum que libère une plante, ou encore les rayons qui émanent du soleil. Mais clairement, ici, dans la Genèse, on voit qu'il y a une distinction entre le Créateur et la création, et aussi la créature. Donc, cette séparation, elle est importante parce que finalement, Dieu va se retrouver en vis-à-vis par rapport à sa création, par rapport à ses créatures. Je dis ça parce que, c'est pour remettre en cause ce qu'on appelle le panthéisme. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que c'est ? Panthéisme, c'est qu'on considère que tout est Dieu en quelque part, comme si le divin s'est, comme qui dirait, écoulé, il y a comme une émanation. Alors, je vous donne un exemple. Pour certains, si on va tuer une fourmi, allez, attention, il y a que c'est quelque chose de totalement inconcevable parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du divin dedans, ok ? Parce qu'il n'y a pas une distinction entre la création et le créateur. Et donc, voilà, certains vont dire, voilà, ils vont toucher des arbres, ils vont être en contact avec certaines choses, certains êtres vivants, ou bien on va parler aussi de réincarnation, enfin toutes ces choses. La Bible n'admet pas ce genre de philosophie parce que Dieu est totalement distinct de sa création et il est en relation avec sa création. Il n'y a pas d'émanation, il n'y a pas d'écoulement ici. Et pour même rajouter, Dieu règne sur sa création, mais Dieu est transcendant par-dessus tout et au-delà de tout ce qu'il est fait. Il est au-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs que Dieu va haïr aussi l'idolâtrie, parce que idolâtrer, ça veut dire qu'on va adorer une partie de la création d'une manière ou d'une autre à travers une idole, à travers quelque chose. Vous voyez ? Donc Dieu est totalement loin de distinction de sa création Et il, comment dire, il remet en cause toute idée d'idolâtrie ici. L'homme est le centre de la création de Dieu. Donc le troisième fondement ici. Et la chose qu'on va dire, qui est importante, c'est que l'homme a été créé en... Enfin, moi je le dis comme ça, mais on, dans les versions de la Bible, il dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. » Donc on retrouve ça dans Genèse, chapitre 1, verset 26-27. Il dit « Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. » Alors, en créant l'être humain à son image, on peut le voir comme ça, c'est que Dieu va donner comme une lettre de recommandation. Là, c'est, comment dire, vous pouvez retrouver ça dans le livre donc, d'Analysis, comme une lettre de recommandation, comment dire. Le fait d'avoir été créé à son image, alors souvent on pense au fait qu'il y a des ressemblances entre Dieu et nous. Mais avant tout, ce n'est pas des ressemblances. Avant tout, c'est une question d'image, d'effigie, comme... la statue de, comment dire, de l'empereur romain qui se retrouvait dans chaque partie de Rome. Et donc, ici, il y a comme comment dire, l'effigie de Dieu qui est là à travers nous. Nous sommes les représentants de Dieu, les ambassadeurs sur la terre. Et je peux dire que c'est un énorme privilège que Dieu nous accorde. Alors, si nous sommes ambassadeurs, si nous sommes représentants, si notre identité, elle est là... et que finalement nous retrouvons Dieu, ça correspond à ce que je vous ai dit hein, dimanche. On n'a pas à se comparer les uns les autres, parce que nous sommes tous représentants de Dieu, et qui plus est quand nous avons Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et si nous sommes représentants de Dieu, nous avons besoin d'être en contact régulièrement avec la personne que nous représentons, normalement. Vous êtes d'accord avec moi? Et là aussi... comment dire, ça nous montre que Dieu a donné à l'homme une place toute particulière. Alors certains aiment dire que Dieu, que l'homme est un animal et tout ça. Alors, bon, ici clairement, on voit dans la Genèse que Dieu donne à l'homme un statut particulier, et non seulement un statut particulier, mais une responsabilité particulière de dominer sur la terre. Alors la question c'est, est-ce qu'il le fait bien? Et c'est là ce qu'on verra dans les semaines qui viendront. Alors, j'ai dit ici que c'est une image, c'est une effigie, mais oui, on peut aussi observer qu'il y a des facultés qui sont de l'ordre de Dieu que l'homme a et que l'homme utilise aussi dans sa manière de penser, dans sa manière de s'exprimer, dans sa manière d'agir. Tout ça montre qu'il a un statut particulier que l'animal n'a pas, ok, dans sa façon de se positionner. Donc voilà ce que j'aimerais dire sur le fait que l'homme est le centre de la création. Alors, je passe à maintenant le fait que le but de la création, c'est le repos. Alors souvent, on oublie cet aspect-là un petit peu. Mais il me semble que c'est le vrai point culminant qui arrive et qui nous montre le grand schéma. Ici, c'est la question du repos, puisqu'on sait que cette expression va revenir non seulement dans les paroles de Jésus, mais aussi... dans l'Épître aux Hébreux. Le vrai point culminant donc arrive au chapitre 2 avec le récit du septième jour. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée le septième jour. Dieu mit un terme à son travail donc ici de la création, et il va se reposer de toutes ses activités ici. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, alors que dans les six jours il y eut un soir, il y eut un matin, et là on ne retrouve pas ce soir, ce matin. Donc, on a vraiment l'impression que la création, jusqu'à maintenant, qui existe jusqu'à aujourd'hui, depuis ce sixième jour-là, est dans le repos de Dieu, tout simplement. Alors, quand je dis ça, attention à ce que je dis, bien sûr. Ce repos a été perturbé par la chute, on est d'accord. Hein? Et nous devons le retrouver en Jésus, d'accord ? Mais il y a comme un sabbat permanent à partir de ce septième jour. Alors, je ne vais pas parler de nos amis adventistes, mais en tout cas, dans ce que je dis ici, comment dire, on voit tout un autre sens de ce que peut être ce repos, si ce n'est une connexion continuelle avec le Seigneur. Pas simplement un jour, mais une connexion. Et ça, c'est prévu dès la Genèse, parce qu'il n'y a ni soir ni matin dans cette dans ce septième jour, dans ce sabbat qui devient continuel. Alors bien sûr, avec la chute et tout ça, ce principe va être rappelé dans l'expérience des Israélites comme principe pour qu'ils n'oublient jamais de se rappeler de Dieu et qu'ils n'oublient jamais que tout n'est pas dans toute l'activité, mais qu'ils ont besoin de Dieu. Donc ici, dans le repos, on voit déjà un peu ce que Dieu avait prévu pour l'homme, en fait. Parce que l'homme était appelé à vivre dans ce repos-là, dans cette communion avec Dieu, pour pouvoir vivre dans cette communion, de travailler, c'est vrai, mais surtout être en communion avec Dieu et vivre sans péché. Et dans cette communion-là, et c'est là où je vais en venir avec vous, c'est qu'il y a trois relations parfaites dans la Genèse. Trois relations parfaites. La première relation parfaite, c'est entre Dieu. Alors ici j'ai mis deux flèches, mais on pourrait mettre une seule pour l'homme, homme et femme, avec un grand H, n'est-ce pas? Cette première relation parfaite, c'est entre Dieu et les hommes. Dans ce jardin parfait, où il prend soin parfaitement de l'homme et de la femme. Et puis en plus ils ont de très grandes responsabilités dans le monde. Et Dieu leur a dit des règles. Il leur a dit voilà, vous pouvez toucher à tous les arbres du jardin, mais vous ne touchez pas aux arbres de la connaissance du bien et du mal. Donc cette loi n'était pas une loi oppressante, mais c'était quelque chose dans laquelle il y avait une grande liberté dans laquelle ils pouvaient tout simplement s'exprimer. Et on le voit dans Genèse 2, verset 17. Ça c'est la première relation. La deuxième relation, c'est entre l'homme et la femme. Donc l'homme a été créé en premier, on a vu ça il y a quelques semaines, et la femme a été créée pour être son éserve, son aide. Certes, l'homme est le meneur de cette relation, mais attention, il n'y a pas d'autorité abusive là. La femme accepte de façon purement volontaire et ils jouissent d'un bonheur qui est bonheur conjugal, un bonheur parfait. Et d'ailleurs, ils sont nus et ils n'avaient point honte. Et ils vivent l'intimité la plus totale, sans peur, sans culpabilité. Donc ça, c'est la deuxième relation parfaite. Et la troisième, c'est l'homme avec la création. Et là, c'est toute la question aujourd'hui, hein, n'est-ce pas, avec toute cette question, écologique. Ils vivent donc cette relation parfaite avec la création, où ils pouvaient puiser dans la création, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils devaient à la fois le cultiver et ils devaient garder le jardin. Et donc tout ça devait fonctionner en harmonie, et la terre produisait ses fruits, et puis l'homme pouvait les récolter pour son bien. Donc ici, on a un tableau extraordinaire, un tableau magnifique, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le royaume de Dieu tel que Dieu l'a prévu. Le peuple de Dieu, Adam et Ève, on en a parlé tout à l'heure, le pays de Dieu, le jardin d'Éden, et le règne, la bénédiction de Dieu, une relation parfaite, comme j'ai pu vous l'exprimer tout à l'heure. Alors, on va s'arrêter un instant si vous avez des questions, des interrogations. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse prendre un petit temps d'échange et de partage à travers les questions. Vous allez revisiter un petit peu les textes. Donc ici, on est sur Genèse 1 et Genèse 2. Donc vous pourrez largement en parler. Mais si vous avez des questions, je vous laisse les poser. Et puis, si je n'ai pas les réponses, je reviendrai la semaine prochaine. Il y a tellement à dire sur Genèse 1 et 2.